France Musique. Les grands entretiens, Priscille Lafitte, France Musique.
Je m'appelle Véronique Jans, je suis née le 19 avril 1966 et je suis probablement la plus grande des sopranos en France, en taille.
Le silence et les ombres se conservent malgré le jour.
Véronique Jans, vous souvenez de ce que vous a enseigné William Christie?
Il m'a tout appris, William Christie, il m'a tout appris. Je savais même pas ce que ça voulait dire, un ornement, et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, évidemment, on avait, dans les cours, il nous donnait des petits livres en nous disant, voilà, là, c'est toute la classification des ornements, tout était classifié, les tremblements, les accents plaintifs, enfin, tous, ils ont un nom, tous ces ornements que j'ai un petit peu oublié maintenant, mais il fallait être capable de faire tout ça, et j'ai appris tellement de choses. Oui, bien sûr, William Christie m'a tout appris, tout ce que j'ai su, tout ce que je sais maintenant, et tout ce qu'il a bien voulu m'apprendre, je crois que je l'ai retenu. Et maintenant, quand je chante, que ce soit n'importe quoi, je pense à ce que William nous demandait de trouver quelque chose qu'on s'approprie déjà, quelque chose qui devient ce que moi je chante, et de quelque chose qui a une grande liberté d'interprétation. Et surtout, l'importance du texte dans tout ça, l'importance de la déclamation et l'importance de se faire comprendre, l'importance des syllabes longues, des syllabes courtes. Au début, c'était l'enfer de repérer les longues et les courtes, de savoir sur quoi on avait le droit d'appuyer. Parce que tout ça, c'est très réglementé, c'est pas juste comme ça, vient comme ça. Mais c'était passionnant et jamais, quand je chante maintenant, que ce soit n'importe quel répertoire, je n'oublie tout ça, vraiment.
C'est une technique et une façon de chanter qui demande une extrême rigueur et en même temps une grande liberté. Vous y retrouvez à ce
une extrême rigueur et c'est vrai qu'à les je le dis souvent, l'école baroque est une école très rigoureuse. À aucun moment, vous pouvez tricher quand vous chantez de la musique baroque. Vous devez être très juste. Il y a des moments où la musique et les choses harmoniques font que vous avez besoin d'être droite et ensuite de lâcher. La voix, naturellement, elle vibre. Quand je vous parle, mes cordes vocales vibrent et le spectre de ma voix fait des ondulations comme ça. Et il y a des moments dans la musique baroque où on vous demande de vibrer beaucoup moins, d'être droite pour profiter du frottement avec la basse et des harmoniques. Enfin, c'est vraiment tout un tas de règles grammaticales, tout simplement, qui sont appliquées à la musique vocale. Et c'est très important de les respecter, mais il faut faire croire que c'est absolument naturel. C'est ça qui est difficile et c'est ça qui est... Voilà, si vous chantez faux, c'est pas possible. Si vous vibrez trop, c'est pas possible. Si vous attaquez une note par en dessous, c'est pas possible. Enfin voilà, c'est une école de rigueur absolue. Et William Christie était très très exigeant là-dessus. Et c'est vrai que c'était difficile quelquefois, mais heureusement. Parce que maintenant, quand je chante faux, je supporte pas. Quand j'attaque pas proprement une note, je supporte pas. Et tout ça, c'était exactement la même chose pour moi dans Mozart. C'était évident. À aucun moment, vous pouvez vraiment vous lâcher comme ça et laisser votre voix faire wow, tranquillement. Il faut vraiment tout contrôler. C'est, je pense, le répertoire. Maintenant, j'ai compris tout ça. Le répertoire beaucoup plus tardif où il y a toutes ces voix sublimes, magnifiques qu'on entend, n'ont pas cette rigueur. Elles ont une liberté. Elles ont autre chose que j'admire beaucoup, mais que je suis, que j'ai beaucoup de mal à trouver, en fait. Moi, j'ai cette rigueur et c'est dans moi, c'est comme ça que j'ai appris cette musique. La musique baroque, elle fait partie de moi, je me pose plus aucune question. Mais à aucun moment, on est vraiment libre dans cette musique. Et je pense que c'est un bon exercice aussi de savoir d'être en contrôle de tout ça. Mais après, c'est difficile de lâcher pour un autre répertoire, et ça, j'ai appris ça après, en fait.
Thank you.
vous souvenez des conseils peut-être plus personnels que vous a donné William Christie à l'époque ou de...
C'était, moi j'avais beaucoup de mal à chanter, à chanter très juste en fait, parce que je pense que je retenais ma voix était plus grande et il y avait quelque chose qui faisait que je m'obligeais à la rétrécir. Et je chantais toujours un petit peu haut. Il y avait trop de pression, donc il y avait trop d'harmoniques aiguës, et ça me faisait chanter souvent un peu haut. Et c'est vrai que William m'a beaucoup, pas traumatisée, mais enfin, je veux dire, il était très exigeant avec moi pour ça. Il peut être très dur. Je pense qu'on peut obtenir les choses des gens en étant moins dur, mais c'était sa façon à lui de faire. Et
vous n'avez pas souffert.
Si, bien sûr, comme tout le monde. Bien sûr, j'en ai souffert comme tout le monde, et j'ai été très malheureuse à certains moments. Avec lui, mais c'est loin maintenant et je pense que il a un peu oublié, moi aussi, mais je me souviens de moments très durs, ouais. Et je me souviens aussi d'un moment où c'était plus possible, où j'avais vraiment besoin d'aller voir ailleurs, et lui aussi, je pense qu'il pouvait plus me supporter. Enfin, pendant 15 ans, j'ai fait que les arts florissants ou presque, et on est arrivé à un moment dans ma vie où j'avais vraiment besoin de voir ailleurs et de chanter autre chose et de psychologiquement et vocalement aussi, j'allais imploser, quoi. Si je laissais pas ma voix sortir, il allait se passer quelque chose de pas bien pour moi, quoi. Tout ça, ça a été vraiment instinctif, quoi. J'ai toujours eu un instinct, j'ai toujours senti les choses, en tout cas tout ce qui concerne ma voix. Il fallait que je parte, et c'est là où j'ai rencontré Jean-Claude Malgoire.
Votre rencontre avec Jean-Claude Malgoire était où ça, à quel moment ?
Je me souviens, c'était une audition en fait. J'avais entendu bien sûr parler de Jean-Claude Malgoire et j'avais beaucoup d'amis qui chantaient avec lui, Tourcoing, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et j'ai passé une audition avec lui qui était en fait plus une rencontre. On a bu un coup, enfin c'était comme avec Jean-Claude toujours, très sympa. Et il m'a fait chanter 2-3 trucs et il me dit « Je sais que tu chantes bien, ne t'inquiète pas, on va bien se passer. » Enfin voilà, et tout de suite il m'a engagée et en fait il m'a engagée pour faire ce... Il m'appelle après l'audition, il me dit « Véronique, je veux te proposer Chérubin ». Je dis « Non, mais ça va pas, c'est pas possible, Jean-Claude, je suis incapable de chanter Chérubin ». Il me dit « Mais si, je pense que tu es prête et tout ça ». Honnêtement, j'avais jamais vraiment fait de grands rôles scéniques, surtout Chérubin, c'est quand même un personnage qui est très très présent dans les Noces de Figaro. Mais bon, il a décidé que j'étais capable de le faire, donc je lui ai fait confiance, j'ai dit « Ok, ben on y va ». Mais alors, ça a été l'horreur, les répétitions.
Et puis le registre vocal n'est pas du tout celui que vous aviez avant, enfin,
Si, parce que justement, c'était compliqué les aigus pour moi à cette époque-là. En plus, c'était facile de me transformer en jeune homme, j'étais grande. J'avais des grands bras, des grandes jambes, je ne savais pas quoi en faire, j'étais complètement mal à l'aise tout le temps sur scène et tout. Et alors les répétitions, ça a été un enfer, quoi. J'étais tellement malheureuse, c'était à Tourcoing et je me souviens très bien, on était tous logés, et d'ailleurs c'est toujours pareil, on est tous logés à l'Ibis de Tourcoing, tout le monde connaît l'Ibis de Tourcoing, c'est là où tout le monde se retrouve, et je pleurais tous les soirs dans ma baignoire, c'était affreux, c'était Nicolas Rivin qui chantait le comte, c'était Colette Alioligaz qui était la comtesse, Catherine Dubosc, enfin je veux dire, c'était des grands chanteurs qui étaient là.
Mais et pourquoi vous dites que vous étiez malheureuse ? C'était trop de pression d'être de passer.
J'étais incapable de faire ce qu'on me demandait de faire, quoi, de jouer la comédie, de chanter en même temps, d'être habité par le personnage. Enfin, c'était trop pour moi, c'était trop tout d'un coup, j'y arrivais pas. Et Jean-Claude était très, très, très encourageant, très gentil. Il me disait, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça, c'est vraiment la phrase de Jean-Claude que j'ai entendue toute ma vie, et il avait raison. Le metteur en scène était un peu torsionnaire, et Jean-Claude racontait toujours cette histoire de... Vous savez, dans les Noces de Figaro, c'est très compliqué. Il y a plein d'accessoires, il y a la patente, il y a la musique, il y a le truc. Et donc, il y avait une enveloppe bleue, une enveloppe grise, et à chaque fois, je me mélangeais les pinceaux. Enfin bon, à chaque fois, je me trompais. Et il y a eu un soir où c'était Jean-Claude Auvray qui était le metteur en scène à ce moment-là, qui était vraiment très dur avec moi et qui disait « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette fille ? Elle sait rien faire et tout ça. » Je m'en souviens très, très bien. C'était vraiment dur. Et un jour, il est arrivé. « Bon, alors Véronique, Qu'est-ce que c'est quelle couleur, ce truc-là? Alors, je disais, gris. Et ça, c'est quelle couleur, ça? C'est bleu. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et en fait, je disais, il faut que je prenne la grille bleue. Enfin, j'étais complètement paumée. Et Jean-Claude, quand il racontait ça, il riait. Enfin, bon, il s'est resté vraiment dans les annales de ces noces de Figaro, qui, au final, se sont très bien passées. Et je pense que le fait que j'étais complètement mal à l'aise et empotée et tout ça, ça allait très bien avec le personnage. Et oui, ça s'est super bien passé. Et l'année d'après, il m'a proposé, alors là, c'était le grand saut, Vitellia, dans la Clémence de Titus, où j'étais avec un porte-jartel, avec des cuissardes, enfin vraiment le truc complètement pas moi du tout, quoi. Encore une fois, j'étais pas du tout prête à chanter ça, mais Jean-Claude m'a fait confiance, et dans le cadre de cet atelier lyrique où tout le monde est bienveillant, où la salle n'est pas très grande, où les gens sont gentils, où on veille sur vous, où à la fin d'une répétition, hop, on va tous manger des pâtes dans l'appartement de Jean-Claude et René, enfin c'était vraiment tellement agréable et tellement réconfortant, voilà, pour une jeune chanteuse que j'étais qui se lançait dans un répertoire qu'elle est nouveau.
Vous avez besoin de passer peut-être entre les mains de Jean-Claude Malgoire pour prendre confiance aussi dans ce nouveau rôle. C'était la bonne personne pour vous conduire dans ce changement-là.
Ouais, et surtout après une école très rigoureuse avec William Christie, c'était tout d'un coup quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus calme, beaucoup plus réconfortant. Et j'avais vraiment besoin de passer par là pour trouver un peu de confiance en moi, comme vous dites. Ouais, c'était. Et à cette époque-là, je chantais beaucoup aussi, je pense qu'il faut en parler avec Gérard Lenne, puisque Gérard Lenne avait créé son ensemble aussi. Et c'est une période où j'ai enregistré beaucoup de disques avec Gérard Lenne, où on a fait beaucoup de tournées, en petit effectif aussi. Et Gérard était vraiment quelqu'un que j'admirais beaucoup et qui avait une vraie personnalité dans sa voix. Personne ne chante comme Gérard Lenne, même encore maintenant. J'ai jamais entendu un deuxième Gérard Lenne et on a enregistré des très très beaux disques. Et tout ça avec, à chaque fois, toute cette profusion de musique. C'est vraiment une période de ma vie où il y avait beaucoup, beaucoup de musique qu'on me proposait d'enregistrer. On faisait beaucoup de disques, il y avait beaucoup d'argent au ministère de la Culture pour ça, je crois, tout simplement. On découvrait avec le Centre de Musique Baroque de Versailles, on découvrait toute cette musique. Il y avait sans arrêt des choses à faire, et voilà.
Et comment va votre voix à ce moment-là? Comment elle se trouve, comment elle se plaît dans Mozart?
Ma voix trouve une liberté dans Mozart. Tout d'un coup, un truc que j'avais jamais senti. Waouh, un souffle, une vocalité, un souffle, des grandes phrases et une liberté vocale que j'avais jamais senti. Alors, tout est relatif, hein. Quand vous demandez de chanter Mozart à un grand, quelqu'un qui chante du Puccini, du Verdi, enfin, du grand répertoire, c'est l'enfer. Il se sent complètement corseté. Mais moi, comme j'arrivais d'un endroit où on était encore plus corseté dans la musique baroque, tout d'un coup, Mozart était une grande liberté. Voilà. Et c'était, ça a été une révélation pour moi de chanter tous ces Mozart que j'ai tous, je les ai tous étrennés, je crois, si je puis dire, chez Jean-Claude à Tourcoing. Ensuite, il y a eu La Comtesse. Ensuite, il y a eu cette très belle production de Jean-Pierre Vincent à l'Opéra de Lyon. Et puis, un agent qui arrive et qui commence à me vendre. Il y a eu Fiordiligi aussi avec Jean-Claude. Il y a eu tous ces grands Mozart. Je les ai faits dans des conditions idéales, je crois. Et ensuite, l'agent qui s'occupe de moi et qui me vend, voilà, dans le monde entier, je crois qu'on peut le dire. J'ai eu mes grandes années mozartiennes où, après le baroque, Mozart, très très présent dans ma vie.
Oh.
vous souvenez d'avoir dû effacer certains automatismes, avoir dû faire évoluer, travailler autrement votre voix ?
Oui, bien sûr, j'avais le tic de tous ces baroqueux d'attaquer les sons de manière droite. Et ça a été difficile de m'en dépêtrer, exactement comme ça a été très difficile de me dépêtrer de mon étiquette baroque qui était collée sur mon front de manière très, 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 très profonde et de montrer au monde, en tout cas à la France, que j'étais capable de chanter autre chose que de la musique baroque. Le montrer ailleurs, c'était plus facile parce que les gens ne me connaissaient pas, en tout cas ils ne me connaissaient pas en tant que Véronique Jean, ils me connaissaient en tant que Art Florissant ou que Gérard Laine, ou voilà. Mais arriver en tant que Véronique Jean, présenter une comtesse ou une Fiordiligi à Berlin ou à Vienne ou ailleurs, c'était beaucoup plus facile parce que les gens me connaissaient moins. Mais en France, ça a été très très difficile. Les gens m'avaient connue toute petite, si je puis dire, dans un répertoire où j'étais confortable, où j'étais devenue quelqu'un de vraiment reconnu. Donc ça a été difficile d'arracher cette étiquette et je me suis battue pendant longtemps pour prouver, et j'avais besoin, pour moi sans doute, de prouver à la terre entière que j'étais capable de chanter autre chose que de la musique baroque, alors que j'adore cette musique, elle fait partie de moi, mais il fallait passer par cette étape.
Les grands entretiens de Véronique Jeans, France Musique.
Vous êtes engagée par Peter Brook.
Oui.
Pour une production de Don Giovanni où vous chantez, ouais, Donna Elvira. Et c'est Peter Brook qui vous a recruté et non pas le chef d'orchestre ou...
Oui, oui, c'était...
C'était Claudio Abbado qui...
Voilà, c'était Claudio Abbado, mais c'était un grand projet de Peter Brook de faire un Don Giovanni. Je crois qu'il n'avait jamais fait Don Giovanni, donc c'était... Il y a eu des auditions énormes, ça a été vraiment un truc, il a convoqué des gens d'un peu partout, et quand j'ai passé cette audition, je crois qu'il avait déjà choisi, en fait on était deux distributions en plus, parce que c'était un spectacle qui devait tourner beaucoup, et il avait déjà trouvé, c'est Don Giovanni, il avait trouvé les Donna Anna, il avait trouvé les rôles les plus importants, et je me souviens très bien quand j'ai passé cette audition, ce regard bleu qui vous transperce là, de Peter Brook, et très bienveillant, très gentil, et qui me dit, bon, chantez, mais de toute façon, enfin, je vous expliquerai après. Alors voilà, moi, je chante mon air, mon truc. Et il me dit, mais c'est formidable, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais en fait, je vois pas du tout Donna Elvira comme vous, je la vois pas du tout comme vous, donc ça va être compliqué pour moi d'envisager le personnage avec vous, mais bon, je suis contente de vous avoir entendu et tout ça. Et, bon, et moi, un peu dépité, me disant, maman, si j'avais su. Puis après, il a beaucoup réfléchi, et il m'a rappelé, il m'a dit, mais en fait, vous avez raison, j'aime votre Elvire, voilà, je vous engage et vous faites partie du voyage. Et pendant,
on a travaillé... Vous avez imaginé une Elvire comment
D'après ce qu'on m'a dit après.
Petite et blonde, c'est ça?
À peu près, ouais. Donc, tout, absolument moi, n'est-ce pas? C'était... Et voilà, nous voilà partis pour ces répétitions interminables et intenses au Bouffe du Nord. C'était en 98, je crois. C'était pour le Don Giovanni d'Aix-en-Provence, en fait. On a commencé à répéter très tôt, peut-être bien au mois de mars, quelque chose comme ça. Et on passait les journées ensemble. On était les deux distributions ensemble et Peter était là et... On commençait par une heure de gym le matin. Il y avait une dame qui venait nous faire du sport et tout ça. C'était vraiment comme les troupes de théâtre, quoi. On mangeait ensemble, on dormait pas ensemble parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers. Moi, j'étais parisienne à l'époque, donc les Parisiens retournaient chez eux. Mais c'était vraiment un travail de troupe. Et alors, on passait son temps à improviser. Alors, il disait, bon, aujourd'hui, Véronique, toi, tu vas chanter le rôle de Don Juan. Et puis, Don Juan va chanter Elvire. Et puis, on mélangeait tout, quoi. C'était foisonnant, c'était passionnant. C'était, voilà, sauf que...
Votre école théâtrale, là, vous y êtes passée,
en fait. Ah oui, là, ouais. Et surtout, de l'improvisation en permanence. Trouver d'autres choses, trouver d'autres idées, trouver au fond de soi-même.
Voir une Elvire chez l'autre, c'est
voilà,
ça.
Voilà, voir une Elvire chez Peter Mattei et moi, de me transformer en Don Giovanni. Enfin, c'était très étonnant, mais passionnant. Mais ça a duré 3 mois, quoi. Et au bout de 3 mois, on n'en pouvait plus. On était tous à... On n'en pouvait plus. On avait juste besoin d'être sur scène et de le faire pour de vrai, quoi. Parce qu'en plus, on chantait pas beaucoup. On jouait beaucoup. Il nous tardait d'arriver à Aix, d'être sur la scène et de chanter, quoi. Tout simplement de chanter. C'était...
Mais théâtralement, ça a donné...
Ah, c'était passionnant, ouais.
Ça a donné des fruits, ouais.
Et on a fait un Don Giovanni avec deux morceaux de bois, enfin, avec rien, quoi, le décor. Un banc... La scène de du balcon, c'était un truc qui décintre, et puis je faisais comme si c'était... Enfin, c'était avec rien. On faisait imaginer des choses au public, et c'était passionnant et très, très riche, et vraiment un tremplin incroyable pour la suite, bien sûr. Oh,
Et c'est ce moment où, au tout début de ces entretiens, j'étais allée chercher un article de presse de 1996. On est en plein dans cette période-là où vous dites que vous n'allez pas tenir longtemps à ce rythme-là. Et vous aspirez à autre chose.
Absolument. C'était vraiment ça que je vivais. Et ce Don Giovanni dont on parlait avec Peter Brook, c'était en 98, donc, et j'étais enceinte, en fait. J'étais enceinte à Aix-en-Provence, je me souviens très bien. On enregistrait le disque après les représentations. Et comme vous savez, Aix-en-Provence, on commence les spectacles à 10h du soir. Donc, on finissait vers 1h du matin, les représentations, et on enregistrait après. Voilà, j'étais enceinte sur la couverture du disque, je crois, on le voit à peine, mais je suis bien enceinte de ma fille, qui s'appelle Elvire, d'ailleurs. Et voilà. Et c'est vrai que c'était devenu, évident pour moi que j'avais besoin de m'installer aussi dans ma tête et dans mon corps en tant que femme, quoi. J'étais plus une jeune chanteuse, j'avais accompli pas mal de missions. J'étais capable de chanter de la musique baroque, j'avais fait beaucoup d'enregistrements, j'étais reconnue dans ce milieu, j'avais commencé à montrer que j'étais capable de chanter autre chose. J'étais engagée à Aix-en-Provence pour chanter Comtesse, alors que 10 ans avant, ça m'aurait même pas effleuré, tellement c'était dingue pour moi de chanter ça. Et je pense que j'étais prête, effectivement, à avoir des enfants. Maintenant, j'ai 2 grands-enfants dont je suis très fière, ma fille Elvire et mon fils Auguste.
De la Comtesse dans Des Noces de Figaro, enregistrée par René Jacobs en 1999. 2 ans plus tard, Véronique Gence revêtira ses mêmes habits de la Comtesse au Festival d'Aix et puis maintes fois dans sa carrière, tandis que son répertoire s'élargit aux œuvres de Berlioz, Offenbach, Debussy et Poulenc. Ce sera l'objet du 4e volet de ces grands entretiens. Réalisation Marie Gros, prise de son Yves Lors, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Les références, la réécoute et le podcast sont à retrouver sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.